Donc voilà un petit peu le cadre dans lequel le cadre du Moyen-Orient, dans lequel le peuple hébreu va faire son apparition. Alors petit c, il fait son apparition au temps des patriarches. Et c'est là qu'on va voir des noms et un peuple apparaître. Alors tous les récits, à partir du chapitre 12 de la Genèse, donc la partie historique si vous voulez, les 11 premiers chapitres sont tenus pour des chapitres entre guillemets mythiques. Et à partir du chapitre 12, on rentre en gros dans l'histoire. Donc, remonte à des traditions orales du deuxième millénaire qui auraient pu être fixées justement pendant ce que je vais appeler les périodes de cristallisation, hein, donc les périodes de crise dans la transmission. Notamment catastrophes militaires, catastrophes, etc., religieuses, et où on s'empresse d'écrire les traditions de peur qu'elles soient perdues, un peu comme on met une lettre à la mer, là, dans une bouteille à la mer. Oui. Alors, oui, 28 mars. Donc, la Genèse nous dit qu'Abraham vient de Mésopotamie, et c'est ce que confirme la science historique. C'est pour ça qu'on dit parfois qu'un peu de science éloigne de la religion, mais beaucoup y ramène. C'est que l'étude des noms dans la Genèse, enfin, des noms d'Abraham et de sa parenté sont de type amorite, qui est un peuple sémite, qui est justement attesté dans les fouilles qu'on a faites à Marie. Donc, ils sont bien des noms de la région de Ur. La Bible nous dit que c'est à Ur, et curieusement, on s'aperçoit qu'en étudiant d'autres sources que la Bible, on a une confirmation de l'origine. De ce clan. Voilà. Alors, quant à Sarah, son épouse, eh bien, c'est le nom d'une déesse, en fait, adorée, justement à Ur et à Haran. Haran, qui sont deux lieux qui sont cités, justement, dans le cycle d'Abraham, dans la Genèse. Et les récits qui constitue ce cycle, rappelle par ailleurs le droit hittite, qui est un peuple d'Asie mineure, et ourite, qui est aussi un autre peuple qui était établi en Syrie. Vous savez, notamment, la question de savoir pour l'inhumation de Sarah, où il y a un palabre entre Abraham et puis les gens d'un village. Et pourquoi? Parce que là où il y a le mort, finalement, la propriété devient attestée. Et alors, ils ne voulaient pas donner le terrain pour enterrer le mort sans dédommagement, vous voyez, parce qu'ils en perdaient la propriété. Le mort devient propriétaire, et évidemment, ses descendants. Pour vous dire à quel point le culte des ancêtres était important. Et là, on est vraiment au début d'Israël, mais on voit encore le poids de cette religiosité païenne qui est une religiosité.
C'est pour ça que les Palestiniens tiennent tellement au tombeau d'Abraham.
Mais bien sûr, les tombeaux. Mais regardez, dans le monde judéen-palestinien actuellement est quand même modérément. Enfin, on a toujours dit qu'il a été modérément islamisé. Parce que, en fait, énormément de coutumes sont des coutumes païennes qui ont reçu un vernis, alors d'abord chrétien, puis un vernis islamique. Notamment les cultes aux tombes des Tchèques, des Tchèques. Et ben, en fait, là, pour le coup, ce sont Ce sont en fait d'anciens lieux, des hauts lieux païens. Tous ces hauts lieux dont la Bible ne cesse, contre la Bible ne cesse de s'élever, si je puis dire, eh bien, ils ont subsisté à travers, maintenant, pour faire islamique, pour faire musulman, pour que ça colle avec la tradition musulmane, on dit, bah, en fait, c'est les tombeaux de saints musulmans du passé. Mais en fait, non, ce sont des hauts lieux où les païens autrefois adoraient. Et aussi, il y a cette coutume bizarre de mettre des rubans dans les arbres. Et ben, c'était aussi une coutume païenne pour, alors je ne sais plus quelle déesse, si ce n'était pas Astarté ou une autre. Et alors, maintenant, c'est des trucs qu'on fait, par exemple, quand les jeunes filles vont se marier, ou des histoires, des trucs de famille, en tout cas, dont on est sûr que ça se produira dans une vie de quelqu'un. Et alors, du coup, on met des rubans dans les arbres, et en fait, c'est une vieille coutume païenne. Donc, il y a véritablement une imprégnation du paganisme. Et on voit que toute la Bible, pendant ces 1000 ans de constitution, elle n'a été qu'une sorte de protestation contre le paganisme et contre le retour au paganisme, le retour continuel au paganisme des Juifs, en fait, des Hébreux. Voilà. Oui, on peut dire que le cycle d'Abraham est bien effectivement documenté comme venant de Mésopotamie, enfin le cycle, enfin du moins les personnages, venant de Mésopotamie. Le contenu du cycle aussi, à travers tous ces éléments qu'on a retrouvés de droit juridique, etc., y compris les campagnes auxquelles il a participé, donc des lignes de cité dans la vallée du Jourdain. Et puis, par exemple, l'appellation « Dieu de nos pères » est attestée au début du deuxième millénaire. Elle fait déjà partie du bagage culturel de la religieux de cette région. Et vous voyez, Dieu de nos pères, ça fait encore référence à ces cultes, à des cultes des ancêtres. Alors, des exégètes contemporains voudraient faire d'Isaac et de Jacob, qu'on appelle aussi Israël, hein, des figures plus ou moins réelles, en tout cas étrangères à celles d'Abraham, qui auraient été donc fictivement reliées à lui par l'artifice de la descendance ou de la génération. C'est des procédés qui existent, effectivement. Par exemple, un auteur dit « Avec la progression amorite, un certain nombre de clans semi-nomades pénétrèrent en Canaan. Ils ne pénétrèrent pas en même temps et ne s'installèrent pas au même endroit. Par la suite, ces clans fusionnèrent jusqu'à ne former qu'un seul peuple. Pour manifester cette unité, on envisagea chacun des chefs de clan comme issu d'une même famille dont Abraham aurait été le père. » Vous voyez, une manière de fusionner dans une sorte de mythe originel et de donner une sorte de, comment on dit nous pour notre histoire, on dit un roman national en quelque sorte, à ce qui était une collection de... Vous voyez, pour éviter d'avoir des coalitions de cités-États trop fragiles, on dit, en fait, on forme le même peuple. Et la preuve qu'on forme le même peuple, c'est qu'on descend du même ancêtre. Et on met tous les noms un peu d'ancêtres connus, des uns et des autres, dans la même lignée généalogique. Alors, ça peut être séduisant, et ça a pu s'être fait, hein, sauf qu'il y a... Là, on a suffisamment d'éléments communs avec les cultures voisines pour garantir qu'il s'agit de personnes ayant réellement existé, justement, à travers l'onomastique, à travers l'étude des noms, à travers aussi un certain nombre d'épisodes qui sont relatés de leur existence. Tous les noms qui apparaissent datent de la première moitié du deuxième millénaire, deuxième millénaire, et les documents qui sont retrouvés lors de fouilles montrent des généalogies très précises qui servent de narration, de support à la narration de l'histoire. Et c'est précisément ce qu'on a dans la Genèse. Donc, voilà, il y a véritablement déjà une structure généalogique qui ne permettait pas des manipulations comme celles que je viens de décrire, hein, qui ont pu se produire ailleurs, notamment dans des cultures où il y avait moins d'écriture, où donc on pouvait remodeler plus facilement la tradition orale, tandis que quand on a des documents écrits, ben, on les a, les documents sont connus. Donc voilà. Alors, on peut dire qu'il y a une certaine historicité de cette époque patriarcale qui a été transmise, alors, par oral, peut-être aussi par certains écrits qui ont été perdus, mais dont on a des écrits, tablettes d'argile, qui ont été retrouvés par ailleurs, qui semblent confirmer cette historicité. Et nous, on l'a d'une manière plus détaillée, lorsque elle va être mise par écrit au moment de justement d'une de ces grandes périodes de cristallisation qui sera l'exode en Égypte. Alors, grand B, l'épisode égyptien, justement. Les Hébreux en Égypte. Alors, il y a deux superpuissances à l'époque, ça va durer très longtemps. Il y a entre le Tigre et l'Euphrate, la succession des empires mésopotamiens, en gros, qui commence avec Ur, etc., l'empire akkadien, tout ça. Et puis, en bas, il y a l'Égypte. Alors l'Égypte, là aussi, on est documenté sur des millénaires. Alors il y avait, et puis entre les deux, il y a une poussière de cité-État, donc qui servent toujours un petit peu, entre les deux superpuissances, si vous voulez, ils servent un peu de tampon, quoi. Alors il y avait de nombreuses relations, pas toujours amicales, justement, entre l'Égypte et les peuples du Proche-Orient. Au point, ça va vous rappeler peut-être l'actualité, que les Égyptiens finirent par faire construire un mur fermant l'isthme de Suez. Je n'invente rien, hein, au moins 19e siècle. Alors, je ne sais pas comment s'appelait le pharaon. Il s'appelait peut-être Trumpos ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas... vous voyez que l'idée de mur, c'est quand même... Oui, c'est, voilà, actuellement, c'est pareil. Oui.
Mais non, mais la Chine était truffée de remparts.
Oui, la muraille de Chine. Oui.
Il n'y a pas que la muraille, mais il y a plein de murailles. Oui. Chaque dynastie fait...
Oui, parce que d'abord... Oui,
de protection.
De protection, oui.
Protection.
Ce qui empêchait les gens de sortir. Là, c'était pour les empêcher de rentrer, oui.
Oui, dans le cas de protection, ben oui, c'est normal. C'est pas en tout le monde.
Alors,
c'est vieux comme le monde, les murs. Oui, c'est pour ça. De protection.
Il y avait 5000 km de forêt, comme vous voulez, vous pouvez y aller.
Oui. Alors après, donc au deuxième millénaire, au début du deuxième millénaire, donc il y a des difficultés entre le monde égyptien qui est déjà bien structuré, hein, les royaumes, vous savez qu'il y avait, ça a commencé par deux royaumes qui ont fini par fusionner, et on a retrouvé des textes d'exécration égyptiens mentionnant d'exécration, donc de on maudit.
En français, berk.
Voilà. Donc mentionnant des peuples, des villes et des rois du Proche-Orient. Donc c'était très intéressant parce que ça a permis de comparer avec ce que nous disait la Bible. Au XVIIe siècle, il y a un peuple qui s'appelle les Hyksos, qui viennent d'Asie mineure, qui envahissent l'Égypte. Hyksos, H-Y-K-S-O-S. Ce qu'on appelait un peu les peuples de la mer. Donc ils sont venus par bateau, ils ont dû contourner le mur. Donc ils envahissent l'Égypte et ils emmènent dans leur sillage avec eux des populations issues du Proche-Orient. Une fois qu'ils étaient rentrés, le mur était plus défendu et les peuples qui subissent les avatars climatiques, eux aussi, donc des migrants climatiques. Hein, vous avez un bel exemple de migrants climatiques avec justement Jacob et ses fils qui partent en Égypte parce qu'il n'y a plus rien à manger en Palestine. Donc voilà, donc ils emmènent avec eux des populations issues du Proche-Orient. Et il y a eu, à cette période, qui correspond à l'époque de Joseph, justement, fils de Jacob, des hauts fonctionnaires asiates à la cour de Pharaon. On a retrouvé des noms typiquement palestiniens, mésopotamiens, voilà, dans les listes de fonctionnaires de la cour de Pharaon. Et il y en aura jusqu'au XIIIe siècle, qui correspond à l'époque de Moïse, justement. Et donc, ce qui est raconté dans l'histoire de Joseph cadre parfaitement avec le milieu égyptien de cette époque, où un certain nombre de hauts fonctionnaires sont en fait des affranchis issus de populations subalternes, en quelque sorte, d'immigrants. On retrouvera un peu la même chose à l'époque romaine, où on verra que la plupart des ministres sont souvent des esclaves affranchis, alors qu'ils viennent un peu de tout l'Empire. Mais au point même, vous savez que la dalmatique que portent les diacres, en fait, c'était un habit, c'était devenu le signe distinctif des ministres du Bas-Empire. Pourquoi ? Parce que la plupart, c'était des gens issus de Dalmatie. À l'époque de la dynastie des Dioclétien et autres, en fait, c'était souvent des gens issus de la, d'Illyrie, de ces régions-là. Et du coup, l'habit qu'ils portaient est devenu l'habit de cour, en quelque sorte. Bon, en tout cas, ce qu'on sait de l'histoire égyptienne nous permet de comprendre que ce qui est raconté dans la Bible pour Joseph ou Moïse, n'est pas impossible. Donc, on n'a pas la certitude, mais on a au moins la certitude de la non-impossibilité qu'effectivement, des gens venus de ces régions-là aient occupé des charges politiques importantes en Égypte. Et il n'est pas impossible non plus qu'une série de traditions orales ait été fixée par écrit à ce moment, précisément à ce moment où ces détenteurs de ces traditions, pour faire bref, palestiniennes, se retrouvent dans un autre pays, en situation de puissance, avec des scribes, commençant à parler dans une autre langue qui est l'égyptien, et qui, à ce moment-là, sent-il besoin de mettre par écrit les traditions de leurs propres ancêtres, en quelque sorte. Hein, imaginez que vous soyez, je sais pas moi, est-ce qu'on a eu des exemples de ministres, enfin je sais pas, imaginez des huguenots qui arrivent à Berlin au XVIIe siècle, qui commencent à devenir fonctionnaires à la cour, officiers dans l'armée prussienne, eh bien ils peuvent mettre par écrit les traditions de leur... enfin, ce qu'ils savent de leur famille, je sais pas, de Nantes ou de La Rochelle ou de je sais pas où. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de se dire, on quittera le français, puis on passera à l'allemand. Donc, on va écrire ce qu'on sait de notre famille au moment où on change de langue. Et là, il n'est pas impossible, justement, que les traditions orales du clan d'Abraham et de sa descendance, du coup, aient été fixées à l'époque de Joseph, et ou de Moïse, surtout que l'écriture sémitique pré-hébraïque, celle qu'on connaît aujourd'hui, existe depuis le XVIIIe siècle. Il y a une écriture à partir des Phéniciens, vous voyez, ça s'est répandu dans tout le Proche-Orient, et un homme comme Joseph est suffisamment cultivé pour réaliser ou pour superviser un tel travail, soit avec des scribes qui viennent de sa propre famille. Après tout, on nous raconte bien que ses frères s'établissent avec lui et que tout le peuple fuyant la famine s'établit là. Il n'est pas impossible qu'il ait demandé à des gens de son clan de rédiger toutes ces traditions. Voilà. Alors, en tout cas, la mention de Ramsès, de Ramsès II, au chapitre 47 de la Genèse, montre que ce passage n'a pu être rédigé avant 1300. Donc, le passage de la sortie d'Égypte, en fait, date à peu près et postérieur à cette époque. Donc, ça veut dire que là, ça a dû être écrit à peu près à cette époque-là.